Voilà, m'entendez bien. J'aime ce nom, La Bible pour tous, parce que c'est Victor Hugo qui a dit une fois, dans un de ses ouvrages peu connus, il a dit « La France serait mieux s'il y avait une Bible par cabane ». Alors, c'est une expression qu'il avait, voulant dire une Bible dans chaque maison. Et c'est le but de ces chrétiens qui ont existé partout, qui voulaient distribuer les Saintes Écritures. Nous ne prêchons pas une religion particulière, nous prêchons Jésus-Christ et à travers la Bible. Celui qui a la Bible, pour nous, il a la source de la foi. Beaucoup de gens disent, j'aime... C'est ça, c'est ce que j'ai dit exactement. Merci. Mais c'est bien de le répéter. Et alors maintenant, j'ai perdu le fil de ma pensée, mais ce n'est pas grave. Oui, oui, une Bible par cabane. J'allais dire quelque chose de plus, mais ce n'est pas grave. Bon. En tout cas, oui, nous ne prêchons pas une religion, nous prêchons la Bible. Beaucoup de gens demandent, mais moi, j'aimerais avoir la foi, mais je n'ai pas la foi comme vous. Comment pourrais-je avoir la foi? Mais en fait, la Bible dit, la foi vient de la parole de Dieu. Et donc, quand on entend ou quand on lit la Bible, eh bien, la foi peut naître parce que Dieu parle à nos cœurs et on peut mettre sa foi dans les paroles de Dieu. Donc, la foi n'est pas un truc qui vous tombe dessus un beau matin. La foi, c'est quelque chose qu'on découvre et qu'on alimente avec la Bible. Et donc, ce soir, j'aimerais vous parler de la fiabilité de la Bible. La Bible est-elle fiable ? Ça devrait s'afficher, voilà, notre Bible est-elle fiable? Alors c'est une question importante, pourquoi? Parce que la Bible est quand même un trésor de l'humanité. Notre morale est basée sur les 10 commandements, sur la Bible, notre civilisation européenne. Les Romains, à un certain moment de leur histoire, l'Empire romain a adopté le christianisme et donc la Bible. Et notre histoire est fondée sur la Bible. Mais si elle n'est pas fiable... Ben alors, ce n'est pas la peine de se baser sur la Bible. Il faut la mettre à la poubelle. Carrément. Parce que c'est un livre qui prétend être la parole de Dieu. Mais si ce n'est pas vraiment la parole de Dieu, si ce livre a été modifié, falsifié, s'il contient des choses fausses, alors il vaut mieux l'écarter des gens parce que c'est dangereux. Et donc, moi qui étais athée quand j'étais adolescent, lorsque je suis devenu chrétien en lisant justement les évangiles et les paroles de Jésus, très tôt, j'ai eu à cœur de me dire, mais est-ce que la Bible est vraiment fiable? J'ai cru en Jésus, mais est-ce que la Bible est digne de foi? Et il fallait que je fasse des recherches, ce n'était pas possible, je ne pouvais pas rester sans être certain que la Bible était digne de foi. Et donc, cette conférence est le fruit de mes années de recherche, on pourrait dire, sur la fiabilité du texte biblique. En première idée, la Bible est très attaquée encore aujourd'hui. Vous pouvez voir certains documentaires sur certaines chaînes qui disent que la Bible, c'est beaucoup de légendes, que c'est des histoires inventées par certains juifs, etc. Il y a beaucoup de choses qui courent sur la Bible et qui fait que beaucoup de gens ne la lisent pas parce qu'ils ne voient pas l'intérêt. De toute façon, il y a des légendes, ça ne vaut pas beaucoup d'intérêt. Mais j'aimerais vous dire que la Bible n'est pas un livre de légendes, c'est un livre d'histoire, de la foi, histoire de Dieu, histoire de l'homme, et c'est la parole de Dieu. Alors, comment peut-on savoir si la Bible est fiable? Eh bien, il y a des tests à faire. On ne fait pas ça comme ça, au doigt mouillé, tiens, est-ce que c'est fiable ou c'est pas fiable? Il y a des choses presque scientifiques, on pourrait dire, qu'il faut faire. Le premier, c'est le test des manuscrits. Quels sont les manuscrits que nous avons, les copies anciennes de la Bible? Est-ce qu'elles se recoupent ou est-ce qu'elles divergent? Est-ce qu'on en a beaucoup? Est-ce qu'on en a peu? Etc. Tous les manuscrits, toutes les copies. Le deuxième, c'est est-ce que la Bible a une cohérence interne? C'est-à-dire, est-ce qu'elle se contredit elle-même? Est-ce que ce qu'il y a dans la Bible, il y a quand même 66 livres entre l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est beaucoup 66 livres, c'est une bibliothèque. Est-ce qu'ils vont tous dans le même sens ou est-ce qu'au contraire, il y a plein de contradictions? Là encore, si vous allez sur Internet ou dans certains documentaires, il y a des gens qui disent « Nous savons tous que la Bible est pleine de contradictions ». Nous savons tous, bon, ce n'est pas un argument de dire « Nous savons tous ». Moi, j'aimerais avoir des faits, j'aimerais avoir des éléments. En général, ils n'apportent pas trop d'éléments ou alors c'est des contradictions superficielles qui se résolvent très facilement. Mais c'est très important. Est-ce que la Bible est cohérente ? Et puis, le troisième, c'est le test des évidences externes. Est-ce qu'il y a des preuves en dehors de la Bible qui confirment la Bible? Alors ça, je n'en parlerai pas aujourd'hui. Ce sera ma conférence sur l'archéologie. Parce qu'effectivement, l'archéologie est énorme. Il y a des découvertes en ce moment même, en Israël, à Jérusalem, qui chaque fois viennent confirmer un passage de la Bible. Je vous donnerai un ou deux exemples aujourd'hui, bien sûr, mais je vous invite à revenir ou à écouter celle sur l'archéologie. Alors, qui a inventé ces tests? Bien, c'est un certain Simon Greenleaf. Au XIXe siècle, c'était un légiste de Harvard, à l'époque où il y avait déjà Harvard, et il a écrit vraiment une sorte de loi pour tester les écrits antiques. Qu'est-ce qui fait qu'un écrit antique est authentique ou faux? Parce qu'il y a des faux. Alors voilà ce qu'il a déclaré, un extrait, hein, dans son traité sur la loi des évidences. Tout document qui est apparemment ancien, provenant d'un dépôt ou d'un lieu de conservation approprié et ne présentant à première vue aucune trace manifeste de falsification, est présumé authentique par la loi. Et il incombe à la partie adverse d'en prouver le contraire. Et c'est intéressant ce qu'il dit. Ça veut dire que si quelqu'un dit « mais la Bible est fausse », ok, prouvez-le-moi. Prouvez-moi qu'elle a été falsifiée, prouvez-moi qu'elle est remplie de légendes, faites une recherche. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un certain nombre d'individus qui ont fait ces recherches. Et chaque fois, ils sont arrivés à la conclusion que la Bible était vraie. Et notamment, Simon Greenleaf, il y a des grands juristes qui ont étudié, par exemple, la résurrection de Jésus. Est-ce que la résurrection de Jésus est crédible? Est-ce qu'historiquement, elle est possible? Et ceux qui ont étudié ça avec des faits, de l'archéologie, l'histoire, sont arrivés à la conclusion, oui. Si vous avez vu le film Ben-Hur, avec cet acteur Charlton Heston, merci, cet acteur mythique, hein. Ben-Hur, c'est l'histoire d'un juif qui s'appelle Ben-Hur et qui va croiser Jésus et qui va dire, mais ce n'est pas le Messie, le Messie doit être un soldat vigoureux qui tue tout le monde, qui tue les Romains, etc. Et puis, à la fin, Ben-Hur rencontre Christ vraiment de face, et là, Christ guérit sa mère et il se convertit, ou sa sœur, je ne sais plus. Mais celui qui a écrit Ben-Hur, l'auteur, un général, en fait, il faisait des recherches sur la résurrection et la vie de Jésus, et il a enquêté pour prouver que c'était faux. Et quand il est arrivé à la fin de ses recherches, il a dit « Je suis obligé de changer le titre de mon livre ». Et il en a fait un roman pour que ça soit plus agréable qu'une juste une recherche. Et c'est devenu le roman Ben-Hur. Donc, prouvez que la Bible est fausse, parce que la Bible a tous les éléments apparents, hein, qu'elle est vraie, parce qu'elle est ancienne. Elle est ancienne, c'est les manuscrits qui nous le prouvent. Comment la Bible a été transmise? Est-ce qu'elle a pu être modifiée ou falsifiée? Quand même, Moïse, s'il est l'auteur de la Genèse et des premiers livres, c'est 1500 ans avant Jésus-Christ. Ça fait beaucoup d'années, là. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas eu des modifications, des ajouts? Est-ce que c'est Moïse qui l'a écrite? Vous avez, par exemple, dans beaucoup de documentaires ou d'articles, comme dans Historia, par exemple, ou des documentaires sur une certaine chaîne allemande, qui vous disent « l'écriture n'existait pas au temps de Moïse ». Donc Moïse n'a pas pu écrire les cinq premiers livres de la Bible. Donc, déjà, ça enlève les cinq premiers livres. Allez, pssht, tout ça, c'est une invention. Est-ce que l'écriture existait au temps de Moïse? Ce qu'on réalise, c'est que la Bible est écrite depuis le commencement. Ce n'est pas un livre qui s'est transmis comme ça, de bouche à oreille. Hein. On a cette imagination que les gens, avant, ils ne savaient pas écrire, ils ne connaissaient rien. Alors, ils disaient, tu sais, il paraît que... Et puis, le téléphone arabe, hein, et puis on sait ce que ça donne, le téléphone arabe. À la fin, vous n'avez plus du tout ce qu'il y avait au début. Mais la Bible, ce n'est pas ça du tout. La Bible, il y a vraiment des écrits sur des tablettes, sur des papyrus, sur des parchemins. Et sur du papier à la fin. Le parchemin, c'est de la peau d'animal. C'est ce qui tient le mieux avec les années. Le papyrus, ça vit pas très bien parce que c'est de la feuille. Et donc, ça disparaît. Mais on a trouvé des papyrus très anciens avec des textes bibliques. Par exemple, un extrait de l'évangile de Jean. Et puis, les tablettes, ça dure très longtemps. On en a retrouvé des millions en Irak, en Égypte, en Syrie, avec souvent un rapport avec la Bible. Par exemple, 2000 ans avant Moïse, il y a ces tablettes administratives. Alors nous, en France, on est quand même des champions de l'administration, hein, et parfois les Français en souffrent, des lourdeurs administratives. Mais sachez que ça, nous n'avons rien inventé. Les Sumériens avaient déjà de l'administration et des tablettes en cunéiforme. C'est cette langue que l'on gravait avec un stylet dans l'argile et puis qui était séchée ou cuite après. Et donc, ces tablettes datent de 3000 ans avant Jésus-Christ. C'est quand même extraordinaire. Hein, elles sont datées de façon très certaine par les archéologues. Donc, ça veut dire que l'écriture était là bien avant Moïse et que Moïse pouvait écrire la Bible. D'ailleurs, il le dit lui-même, par exemple, dans le livre de l'Exode, « Moïse va rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois, et le peuple entier répondit d'une même voix, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Donc, déjà 1500 ans avant Jésus-Christ, avec Moïse, il y a un livre, il y a toutes les paroles qui sont écrites pour que ce ne soit pas perdu. Et je pense que c'est le Créateur lui-même qui a voulu que son message soit préservé depuis le commencement. Parce que si c'était seulement oral, alors là, ça aurait été catastrophique. Quelles étaient les sources de Moïse pour écrire la Genèse? Parce que le livre de la Genèse, c'est des récits avant Moïse. C'est l'histoire d'Abraham, de Joseph, de Jacob, et ils ont vécu bien avant Moïse. Comment Moïse a pu écrire la Genèse, puisqu'il n'était pas là? Alors, en fait, quand on étudie le livre de la Genèse en hébreu, on se rend compte qu'il y a un mot qui revient, c'est le mot « tolédote ». En hébreu, ça veut dire « origine » ou « généalogie ». Et on découvre que le livre de la Genèse est un livre de généalogie. Ceux qui connaissent la culture juive savent combien la généalogie est très importante dans le monde juif. D'ailleurs, il n'y a pas que les juifs, mais chez eux, c'est très, très important parce que c'est lié au Messie. Et depuis le commencement, ils tiennent des généalogies. Et les généalogies, ce n'est pas juste des noms, c'est des histoires avec les noms. Un tel a fait ci, un tel a fait ça. Moi qui viens de Corse, il y a une culture un peu comme ça, où on se mettait au pied de nos grands-parents, de nos oncles, et ils vous racontaient, mais tu te rappelles, Jean-Jean, et ils nous racontaient toute l'histoire de qui était arrivé à Jean-Jean, et en fait, ils transmettaient l'histoire. Sauf que, chez les Juifs, tout était copié, tout était écrit. Ce n'était pas juste des histoires au coin du feu. Et donc, dans la Genèse, vous avez tolédote des cieux de la terre, donc création des cieux de la terre, vous avez la généalogie, la postérité de Adam, la généalogie de Noé, la généalogie des fils de Noé, de Sem, donc le père des Sémites, Térakh, père d'Abraham, ensuite Isaac, fils d'Abraham, Ésaü, frère de Jacob, et puis la postérité de Jacob. Donc vous avez toutes ces généalogies qui sont en fait collées les unes aux autres dans le livre de la Genèse. Et c'est comme ça qu'elles ont été transmises par Abraham, certainement, ou par quelqu'un même de plus ancien, peut-être Isaac, à Moïse directement. Concernant les manuscrits, est-ce qu'il y a beaucoup de manuscrits bibliques? Est-ce que ça vaut la peine de compter dessus? Alors ici, il y a un petit tableau qui fait un résumé des manuscrits anciens, mais non bibliques. Donc vous avez Hérodote, vous avez Aristote, vous avez César, Jules César, Pline et Tacite. Si vous regardez un peu plus près, regardez le nombre de copies dans la colonne de droite. Hérodote, il y a 8 copies antiques. Alors après, nous, aujourd'hui, on a fait des livres, hein, on les imprime, mais de l'Antiquité, il y a 8 copies. La plus vieille copie d'Hérodote, c'est 900 de notre ère, plus 900, alors que l'original est daté d'environ moins 450. Ça veut dire entre l'original et la plus ancienne copie que nous avons, il y a 1350 ans. Ça fait beaucoup d'années quand même, hein, ça fait un millénaire. Et on n'a que 8 copies. Pourtant, est-ce que vous avez déjà vu des articles ou des documentaires disant Hérodote n'a pas vraiment écrit son livre d'histoire? Non, personne ne met en doute Hérodote alors qu'il n'y a que 8 copies. Pareil pour Aristote, 5 copies. César, 10 copies. Pline, 7 copies. Donc, c'est tous la même chose, hein, un grand écart entre la plus ancienne et l'originale. Maintenant, regardons l'Ancien Testament, simplement. Hein. L'Ancien Testament qui est écrit entre 1500 et moins 400. On a 10 000 copies antiques de l'Ancien Testament, notamment les manuscrits de la Mer Morte, qui, eux, datent de 250 avant Jésus-Christ. Entre 250 et 400, hein, déjà, il y a très peu, mais en plus, si on va jusqu'à Moïse, il y a à peu près un peu plus de 1000 ans. Et surtout, on a 10 000 copies, on n'en a pas 5 ou 8. Alors, le Nouveau Testament, c'est encore plus fort, hein, écrit entre 40 et 100, on a 24 000 copies antiques. Alors, c'est en plusieurs langues, hein, latin, grec, syriaque, etc., il y a plusieurs langues, mais 24 000 manuscrits copiés du Nouveau Testament. Qu'ont fait les chercheurs? Parce qu'il y a des gens qui passent leur vie à chercher ça. Ils les prennent et ils les comparent pour voir les divergences, les différences, comment ça a été falsifié ou triché. Et chaque fois, ils arrivent à la même conclusion. C'est pareil. Les copistes ont fait un travail remarquable. Alors, un élément, la plus grande découverte hein, du XXe siècle au niveau archéologique, c'est les manuscrits de la Mer Morte. C'est un petit bédouin palestinien qui faisait promener ses chèvres dans le désert, parce que c'est en plein désert, là, la Mer Morte, et sa chèvre a sauté dans une grotte quasiment inaccessible, comme on la voit ici, et il a entendu qu'elle marchait sur des tessons. Ça faisait... Il s'est dit, il y a quelque chose dans cette grotte, c'est bizarre le bruit que ça fait. Alors, il a fait... Avec une corde, il a réussi à descendre et il a découvert des jarres cassées, les grandes jarres comme on en voit une ici, et dedans, des parchemins, des manuscrits en hébreu. Alors, il a ramené un échantillon au marché et un acheteur tout de suite qui a vu le trésor, là. Et il a commencé à lui acheter pour un quignon de pain et puis il a revendu ensuite à des collectionneurs. Et puis, les collectionneurs ont dit, mais ça a l'air extraordinaire, c'est l'Ancien Testament, là. Et donc, ils ont ensuite fait appel à des chercheurs. Au début, c'était des chercheurs liés aux catholiques de Jérusalem, puisqu'il y avait une université catholique à Jérusalem. Et ils ont mis 5 ou 6 sœurs et prêtres là-dessus sur le travail des manuscrits de la Mer Morte, et il n'y a rien qui sortait. Ils étaient dépassés par le travail parce qu'il fallait tout recoller. Souvent, c'était des confettis. Et le monde entier a commencé à dire, mais ils ne disent rien sur ces manuscrits. À mon avis, ils sont en train de nous cacher quelque chose. C'est parce que ces manuscrits révèlent que la Bible est fausse ou qu'elle a été falsifiée, qu'il y a des révélations extraordinaires et qu'ils ne veulent pas nous montrer. Parce qu'il y avait toujours, vous savez, par rapport au catholicisme, un peu cette méfiance hein, qui cache au Vatican, tout est caché dans les caves du Vatican, etc. Et du coup, ils ont été obligés, le gouvernement israélien s'en est mêlé, il a dit, donnez-nous tout ça et nous, on va s'en occuper. Et donc là, ils ont mis une trentaine de chercheurs dessus. Et aujourd'hui, quasiment tous les manuscrits de la Mer Morte sont disponibles en ligne pour les chercheurs. Vous pouvez le regarder en Zoom, etc. Et qu'est-ce qu'on a découvert? Eh bien, il y a un archéologue israélien qui nous dit ce qu'on a découvert. Il dit, ce qui est fantastique, c'est qu'en dépit de l'antiquité de ces rouleaux, donc on les date du 2e siècle avant Jésus-Christ, et du fait qu'ils proviennent d'une époque où le texte biblique n'était même pas encore standardisé, c'est-à-dire qu'il y avait encore des modifications chez les Juifs du texte, enfin de ce qui était dans la Bible ou pas. Ils sont dans l'ensemble identiques au texte massorétique. Pourquoi ils parlent du texte massorétique? Parce que les Juifs massorètes du Xe siècle, donc du Moyen Âge, avaient copié la Bible, l'Ancien Testament en hébreu, et c'était leur texte à eux qu'on utilisait pour nos Bibles françaises. On traduisait nos Bibles françaises du texte massorétique. On n'avait pas de texte plus ancien que le Xe siècle. Et là, on fait un bond en arrière du Xe siècle à moins de 100. Ça fait 1200 ans, hein, en arrière. Tout de suite, tout le monde saute dessus. Ah, on va voir les différences entre les deux. Il dit, ils sont dans l'ensemble identiques. Il y a des variantes de lettres par-ci, par-là, mais franchement, j'ai étudié les choses, hein, il n'y a pas de différence. Pourquoi? Parce qu'il y a les copistes. Les copistes, juifs et chrétiens ensuite, étaient des gens qui avaient un sacerdoce. C'était leur sacerdoce de leur vie. On a retrouvé, hein, un professeur américain a retrouvé les 5 écoles principales de copistes. Donc, au temps d'Esdras, 5e siècle avant Jésus-Christ, au temps des Ougotes, hein, ils avaient des noms à chaque fois, ces copistes, les Tanaïm, les Talmudistes et finalement les Massorètes au Moyen Âge. Mais depuis le départ, il y a ces copistes qui sont rigoureux. Mais alors, chaque fois qu'ils écrivaient le nom divin, ils devaient prendre un bain rituel. Alors, je peux vous dire, ça prenait du temps tout ça, parce qu'il fallait prendre le bain, se sécher, et on revenait. Et puis ensuite, le nom divin, une deuxième fois, allez, c'est reparti. et ils comptaient le nombre de lettres dans chaque livre. Chacun avait un livre à copier, hein. Ils étaient spécialisés dans un seul livre. Ils comptaient le nombre de lettres. Quand ils avaient fini de recopier, ils recomptaient toutes les lettres. S'il n'y avait pas le bon chiffre, poubelle. C'était un truc de malade, on peut dire, hein, aujourd'hui. C'est ça qu'on dirait. Tellement ils étaient rigoureux, précis. Et c'est ce qui fait que la Bible, aujourd'hui, est un livre digne de foi. Les copistes chrétiens ont fait un travail. Ils ont copié un peu l'idée, ce ministère, hein, ce sacerdoce de copistes. On a retrouvé, par exemple, un papyrus. C'est dur de retrouver des papyrus. Hein, ça disparaît facilement. Le fameux P52, qui est un extrait de l'évangile de Jean. Il est daté de 125 après Jésus-Christ. Jean, il a écrit peut-être dans les années 70, hein, 60-70, ou 50-70. Donc, ça date de 70 ans après que Jean a écrit. Voilà, c'est une copie, hein, ce n'est pas Jean qui l'a écrit, c'est une copie, un extrait de l'évangile de Jean. Mais ça montre que les copistes chrétiens travaillaient beaucoup déjà. Il n'y avait pas d'imprimerie, mais ça travaillait dur. Notamment, on l'a découvert avec la bibliothèque d'Alexandrie, fondée par Ptolémée. On sait qu'elle contenait 700 000 ouvrages au temps de Jésus. 700 000 ! Et il n'y avait pas d'imprimerie. Tout était copié à la main. Malheureusement, elle a été détruite par le feu. Donc, beaucoup de choses ont été perdues. Mais Alexandrie était une terre où il y avait énormément de chrétiens, et notamment les fameux copistes chrétiens qui ont fait un travail de copie depuis cette ville. C'était une sorte de capitale culturelle, Alexandrie. Donc, premier test, les manuscrits. Est-ce qu'il y a beaucoup de manuscrits ? Oui. Est-ce qu'ils sont anciens ? Oui. Est-ce qu'ils se contredisent ? Est-ce qu'ils ont été falsifiés ? Est-ce qu'il y a des traces de falsification ? Non. Deuxième test, est-ce qu'il y a des contradictions dans la Bible ? Est-ce qu'il y a la marque d'un auteur unique ou est-ce qu'on voit des auteurs différents ? Il faut savoir, c'est sur les panneaux en bas, hein, qu'il y a 45 écrivains inspirés qui ont rédigé les livres de la Bible. 45. Moïse, David, etc. Vous pourriez en citer vous aussi, certainement. Paul. Jésus n'a rien écrit lui-même, mais il a inspiré, bien sûr, la Bible. Mais est-ce que ces 45 écrivains se contredisent ? Est-ce que chacun a écrit pour lui-même ? Est-ce que chacun a fondé sa secte un petit peu, hein ? Ou est-ce qu'il y a au-dessus de ces écrivains une inspiration ? Alors, pour moi, il y a des évidences qu'il y a eu une inspiration des textes bibliques. Ce n'était pas juste n'importe qui s'est mis à écrire un livre religieux. Il y avait le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui les a poussés à écrire. Et ce qu'ils ont écrit a été rajouté au fur et à mesure à la Bible, a été reconnu comme venant de Dieu. Première évidence de l'inspiration, un seul auteur se manifeste malgré les plusieurs écrivains. Un seul thème. Quel est le thème de la Bible ? Est-ce que vous sauriez dire quel est le thème de la Bible ? La rédemption, oui. C'est-à-dire, c'est quoi en mots ? Le salut ? Le salut de qui ? De quoi ? De l'homme ? Pourquoi il a besoin de salut ? Pourquoi il est perdu ? Parce qu'il est pécheur, voilà. Donc, c'est assez simple, en fait. Hein ? On voit dès le livre de la Genèse que l'homme s'éloigne de Dieu. Dieu lui dit de garder le jardin, Dieu lui dit de ne pas toucher à un des arbres du jardin, et l'être humain désobéit. Et c'est le début de la malédiction et du mal qui vient dans nos cœurs, qui nous domine. Hein. Nous sommes dominés par le mal. Même si on voudrait faire le bien, souvent, c'est le mal qui est plus fort. Et donc, depuis le commencement, Dieu dit, je vous promets de vous pardonner, de vous sauver, je vais vous envoyer un sauveur. En Genèse 3, verset 15, il y a un verset qui dit, hein, il y a la postérité de la femme viendra, un sauveur qui va écraser la tête du serpent, mais il sera blessé au talon. Et ça, une sorte de prophétie sur la crucifixion. Hein. Pour nous sauver, Jésus a dû mourir sur la croix. Mais ça, c'est déjà dans le premier livre, dans le troisième chapitre de la Bible. Hein. Donc, un seul thème, la rédemption de l'humanité, le salut de l'homme. Un Dieu éternel et saint qui surpasse l'homme. Alors ça, c'est vraiment une preuve de l'inspiration. Si des hommes inventaient un Dieu ou une religion, qu'est-ce qu'on fait en général ? On se met en valeur dans la religion. Hein. Si moi, je vais inventer un Dieu, c'est le Dieu, il va dire, Emmanuel, je t'ai choisi, tu es mon envoyé, Tu es merveilleux, tu es parfait, tout ce que tu fais est merveilleux. Je me mettrai en avant, et puis tout mon peuple avec, je me mettrai en avant, comme si on était merveilleux. Et surtout, le Dieu nous accepterait un peu tous nos compromis. Voilà. Quand vous lisez la Bible, vous voyez que Dieu, bien qu'il ait choisi un peuple en particulier, Israël, il le punit souvent. Il dit, vous n'obéissez pas à ma loi, je vais vous punir. Et il les prévient, il dit, si vous n'obéissez pas, vous serez déportés. Ils ont été déportés plusieurs fois. Et le Dieu de la Bible, quand on lit la Bible, et c'est ça parfois qui nous effraie quand on lit la Bible, hein, on sent qu'il est saint. Il est au-dessus de nous. Il ne fait pas de compromis avec le péché. Il ne dit pas, non, mais il faut être gentil, c'est tout. Non, non, non. Il est trois fois saint même, dit la Bible. Et même avec ceux qui croient, il dit, attention, obéissez à ma parole. Et donc, ce Dieu éternel et saint qui surpasse l'homme, on ne peut pas l'inventer. Nous, on va inventer un Dieu qui nous ressemble. Regardez les dieux romains et grecs. En fait, c'est des êtres humains, c'est des surhommes. C'est un peu les héros de Marvel aujourd'hui, hein, aux États-Unis. Hein. Superman, Spider-Man, c'est les dieux grecs et romains, en fait. Hein, avec leur turpitude, leur péché, leur faiblesse. Mais le Dieu de la Bible n'a pas de péché, n'a pas de faiblesse. Il est omniscient, omnipotent. Il est saint, il est juste. Mais, c'est vrai, il est miséricordieux. Il est amour, vraiment. Il montre son amour et sa patience envers nous. Il y a des prophéties précises. Il faut savoir que dans un livre religieux comme le Coran, il n'y a pas de prophétie sur l'avenir. Alors, il y a beaucoup de textes dans le Coran, beaucoup d'idées, de choses, mais il n'y a pas d'annonce d'événements prophétiques. Dans la Bible, on peut dire qu'un tiers de la Bible est prophétique. Chaque fois que Dieu parle, en fait, il prophétise quelque chose. Et il a prophétisé pour Israël qu'ils allaient être déportés, qu'ils allaient ensuite revenir dans leur pays. Et il dit un jour, je vous ramènerai dans votre pays, vous ne serez plus jamais arrachés. Et c'est ce qu'on découvre aujourd'hui. Mais il a fait des prophéties sur les nations, sur Babylone, l'empire babylonien, sur l'empire grec, sur l'empire romain. Ces empires se sont succédés, comme on le voit dans l'histoire, et la Bible avait tout prédit. Et puis, il y a la prophétie aussi sur le Messie, qui serait le Messie? Et Jésus a accompli des dizaines de prophéties, qu'il naîtrait à Bethléem, qu'il serait descendant de Judas, qu'il serait trahi par un ami, qu'il souffrirait d'atroces souffrances pour nos péchés. Tout ça, c'était prophétisé dans la Bible. Et ça, c'est un signe qu'il y a une intelligence supérieure qui inspire les prophètes. Parce qu'il n'y a pas de prophétie qui a raté. Toutes les prophéties... Alors, il y a des prophéties extraordinaires, notamment sur Tyr ou sur Babylone. La ville de Tyr, la Bible prophétise comment elle va être détruite à l'époque. Et les choses, quand on étudie l'histoire, on voit que ça s'est réalisé exactement comme la Bible le disait. Des vérités toujours actuelles et pertinentes, j'en reparlerai demain matin sur le fait que la Bible nous parle encore aujourd'hui, mais la Bible est toujours actuelle, toujours pertinente. Elle nous parle de la fin des temps. On est en train de voir des signes inquiétants sur la fin de notre civilisation. Elle nous parle du cœur humain, elle nous parle des choses. L'homme est toujours le même. Hein. Ce n'est pas parce qu'on conduit des voitures électriques qu'on a changé. On a toujours le même cœur. Et la Bible nous parle toujours encore à nous aujourd'hui. Donc, c'est des signes de l'inspiration de ce livre. Mais surtout, il y a l'unité extraordinaire de la Bible. De Moïse, le premier auteur, jusqu'à Jean, le dernier, hein, qui a écrit l'Apocalypse, plus de 1500 ans, 45 écrivains, 66 livres en tout, entre l'Ancien et le Nouveau, un seul thème, la relation avec Dieu rétablie par le Messie. Et j'en profite, si je puis dire, pour vous donner quelques éléments sur mon parcours de foi. J'ai été élevé dans une famille catholique, corse, c'est tout à fait naturel, hein, et j'ai fait des études à Paris dans un collège catholique réputé, et j'ai fait ma première communion à Notre-Dame de Paris. Donc, j'ai servi la messe, j'ai appris le catéchisme, j'ai été assez loin dans le catholicisme, étant jeune. Et après ma première communion, j'ai tout laissé tomber, je suis devenu athée, anticlérical, anti-Dieu, anti-Jésus, anti-Église, anti-Bible, le moqueur absolu, le cynique absolu, humaniste, je croyais en l'être humain, en l'homme, l'homme est bon. Et Dieu n'existe pas, la religion, c'est l'opium du peuple. Voilà. J'étais comme ça, à fond, à fond. Et pour moi, en fait, la religion, c'était un système humain qui cherchait à dominer les gens. Et donc, je ne faisais pas de différence entre Jésus et la religion, entre la Bible et la religion. Pour moi, Jésus, la Bible, la religion, tout ça, c'est inventé par les hommes. Il y avait ce film des Monty Python à mon époque, La vie de Brian, qui m'avait beaucoup plu. C'est une parodie de la vie de Jésus par les Monty Python, qui sont des humoristes anglais. Je me suis éclaté de rire devant ce film. Je dis, mais c'est ça, ils ont tout inventé, Jésus n'a jamais existé. C'est un pauvre gars qui a trébuché, puis on a dit, oh, c'est le Messie, et ça y est, on a fait de lui un Messie. Donc, pour moi, j'avais cette idée que tout ça, c'était faux. Mais je cherchais quand même la justice. Je cherchais l'amour, vrai. Et puis, je me disais, donc quand j'avais 18 ans, je me disais, bon, tu vas finir tes études, tu vas avoir un job, tu vas te marier, si c'est possible, tu vas avoir des enfants, tu vas aller être à la retraite, et tu vas mourir. Et là, ça ne me plaisait pas du tout, ce programme. Mais à quoi ça sert, tout ça ? Tout ça pour mourir à la fin, ça ne va pas. Et donc, ça me perturbait beaucoup, j'étais très embêté, jusqu'au moment où j'ai dit, bon, arrête de casser la tête, amuse-toi. Voilà. J'étais fils unique, j'avais de l'argent de poche, je me suis amusé. Mais les amusements me laissaient vide. Les boîtes de nuit, l'alcool, les filles, tout ça. Au bout d'un moment, j'étais vide. Et là, j'ai commencé à vraiment chercher une réponse. Donc, chercher dans la poésie, j'aimais beaucoup la poésie. J'étais dans l'astrologie. J'ai cherché la sagesse orientale des hindous. Puis je me suis rendu compte qu'en Inde, ça ne se passe pas très bien avec leur sagesse. Et j'étais déçu. J'ai dit, mais personne n'a de réponse. C'est pas possible, quand même. Et j'avais en classe de prépa, un professeur juif agnostique. Donc, pas du tout croyant ni pratiquant en Dieu, mais par contre, il nous faisait réfléchir sur des phrases de philosophes. Et donc, il écrivait la phrase au tableau, je me souviendrai toujours. « Allez, vous avez 10 minutes pour me réfléchir et me dire quelque chose sur cette phrase. » Alors, nous, on sortait du bac, vous savez, où vous prenez tout par cœur. On ne savait pas réfléchir. Et donc, il nous a appris à réfléchir par nous-mêmes. Et de temps en temps, il mettait un proverbe de la Bible de Salomon. Dans la Bible, il y a les proverbes de Salomon, juste après les psaumes. Mais il ne disait pas que c'était la Bible. Il mettait Salomon. Et ces proverbes avaient une puissance spirituelle, une force, une sagesse, tout en étant très simple. Alors, un jour, je suis allé le voir, j'ai dit, mais c'est qui ce Salomon ? C'est un philosophe ? Il dit, bon, écoute, n'en parle pas trop, mais c'est dans la Bible. Voilà. Parce qu'en France, il ne faut pas trop... Bon. Ah bon ? Alors, je me suis dit, il faudrait que j'achète la Bible. Et je voulais acheter la Bible, puis j'ai dépensé mon argent dans des bêtises, dans les cigarettes et tout ça, jusqu'au jour où, après, en école de commerce, une jeune fille protestante évangélique était dans ma classe, et elle priait avant de manger, par exemple, des choses comme ça. Donc, on voyait qu'elle avait une foi extérieure, et je lui ai posé quelques questions. Je me moquais un peu d'elle, parce que pour moi, elle était dans une secte. Et puis un jour, elle m'a dit, mais écoute, viens un dimanche matin, on est un groupe d'étudiants dans un appartement à Paris avec un évangéliste, et on parle de la Bible, ben, viens. Et moi, par défi, je dis, ben, d'accord, jamais vu un pasteur ou un évangéliste, je vais lui montrer qui sait quoi, parce que moi, je pensais avoir une grande culture générale, et que j'allais le... Pff, le... Et puis, on a mangé ensemble, on a chanté, on a prié, puis à un moment, il a dit, Emmanuel, j'aimerais te parler seul à seul. Ah, bon, d'accord. Et il a ouvert la Bible et il a lu des extraits des évangiles, des paroles de Jésus. Et là, c'est comme si Dieu me parlait. Cet homme n'était plus là, c'était Dieu qui me disait, j'existe, je t'aime, et j'ai des choses à te dire. Et c'était vraiment mon rendez-vous avec Dieu. Et moi qui étais compliqué, tout est devenu simple comme un enfant. J'ai dit, mais est-ce qu'il y a un créateur ? Il a dit, mais bien sûr, la Bible nous dit qu'il y a un créateur. Mais est-ce qu'on peut le connaître ? Il dit, bien sûr qu'on peut le connaître. Il est venu en Jésus, justement, pour se faire connaître, pour que tu puisses l'avoir dans ta vie. Et je dis, mais qu'est-ce que je dois faire ? Mais il dit, tu dois d'abord reconnaître que tu es pécheur, que tu dois te repentir du mal que tu as fait et tout ce que tu as fait de mal. Je dis, ben oui, ça, je sais. Moi, le soir, quand je m'endors, ma conscience me dit, ça ne va pas. Hein. Donc, j'ai prié, j'ai demandé pardon à Dieu pour tous mes péchés. Je n'ai pas fait de liste. Hein, Il dit, mais maintenant, qu'est-ce que je fais ? Il dit, demande à Jésus de te réconcilier avec le Créateur, que tu puisses connaître Dieu. Et je dis, mais qu'est-ce que je lui dis ? Mais tu dis, Seigneur Jésus, viens dans ma vie, sauve-moi, pardonne-moi, je crois que tu es mort sur la croix à ma place. Et donc, j'ai fait cette prière. Et immédiatement, il y avait cette paix extraordinaire qui est rentré dans mon âme et qui ne m'a pas quitté depuis tout ce temps. J'ai couru chez mes parents, j'ai dit « Papa, maman, je suis chrétien !» Et ils ont dit « Oh là là, c'est quoi ça ?» Alors après, ça se complique, hein, c'était pas catholique, donc c'était une secte, forcément. Mais ils ont vu comment Dieu a changé ma vie en bien et m'a donné cette paix extraordinaire. Et donc, cette relation avec Dieu, c'est ça le thème de la Bible. Beaucoup de gens pensent que la Bible, c'est un livre de messe, un livre de religion, avec des rites. C'est pour les croyants, en fait, la Bible. Non, la Bible, c'est pour tout le monde. C'est pour les croyants, mais c'est aussi pour les incroyants. Elle a des choses à nous dire. Le livre de l'Ecclésiaste, c'est une grande sagesse. Les évangiles, les paroles de Jésus nous résonnent encore aujourd'hui, hein, dans notre langue française. Et donc, le but de la Bible, c'est de rétablir la relation. C'est le message d'amour de Dieu pour nous. Et voilà pourquoi c'est un livre inspiré par un auteur. Ça, je vous ai cité, hein, la prophétie sur le Messie, la postérité de la femme qui écrasera la tête du serpent et l'accomplissement, Colossiens, c'est dans le Nouveau Testament, Jésus, hein, a dépouillé les dominations, les autorités, c'est-à-dire les démons en fait, et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Christ, Jésus est le Christ, Jésus est le Messie, le Sauveur. Il faut savoir que pour qu'un livre soit ajouté à la Bible, et notamment au Nouveau Testament, il y avait des critères très précis. Ce n'est pas n'importe qui écrivait un écrit, encore une fois, qui pouvait être ajouté au Nouveau Testament. Il fallait que ça vienne des apôtres de Jésus-Christ, choisis par Jésus. Il fallait que ça ne contredise pas l'enseignement des apôtres et de Jésus, bien sûr. Et il fallait que ça confirme aussi l'Ancien Testament. Donc, c'est des critères très précis pour qu'un livre soit accepté comme dans le Nouveau Testament. Alors, je terminerai avec ces questions, parce qu'on a toujours des questions, hein, et les évangiles apocryphes. On entend ça souvent sur Internet. Oui, c'est le Vatican, c'est l'Église, le pape qui a choisi les quatre évangiles et il a rejeté tous les autres. Et d'ailleurs, on a retrouvé en Égypte des évangiles, l'évangile de Judas, l'évangile de Pierre. Effectivement, c'est vrai, hein, on les a retrouvés à Nag Hammadi, en Égypte. Et donc, pourquoi ils ont été rejetés? Parce que ça ne collait pas avec l'idée que l'Église avait. Donc, c'est toujours ce complot de l'Église. L'Église catholique romaine avec le Vatican a vraiment commencé vers le VIe siècle. Vraiment, elle a démarré sa puissance. Avant le VIe siècle, c'était des églises et des chrétiens qui vivaient leur foi avec le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Il n'y avait pas de complot possible parce qu'ils étaient différents dans tout l'Empire romain, répartis dans le monde entier. Il n'y avait pas encore cette unité autour de Rome. Donc, les évangiles apocryphes, ben, quand on les lit, parce que je les ai lus, ils ont été traduits en français, hein, ils répondent à la curiosité humaine en inventant des histoires que les évangiles n'ont pas traitées, notamment l'enfance de Jésus. Un des évangiles apocryphes raconte que Jésus était à l'école et que son maître fait une affirmation et que Jésus a dit « Non, ce que tu dis n'est pas vrai ». Alors le maître a dit « Écoute, c'est moi le professeur ici, ne dis pas que je me trompe hein. ». Et il était fâché contre Jésus. Et Jésus, donc il a tendu la main « Ne me dis pas que je me trompe ». Et Jésus a paralysé son bras. Vous imaginez Jésus faire une chose pareille. Quand vous voyez le reste de sa vie, enfin, ça ne colle pas du tout avec son caractère, son personnage. Et donc, c'est des histoires comme ça, un peu pour la curiosité. Tous ces évangiles apocryphes, tous sans exception, viennent de groupes gnostiques. Les gnostiques, c'était des sectes qui avaient des éléments chrétiens dedans. C'est pour ça qu'on pense qu'on croyait que c'était des chrétiens. Mais quand on étudie le gnosticisme, c'est un truc plutôt oriental, New Age aujourd'hui, on dirait, qui n'est pas basé sur les Écritures. Ils ont rajouté justement des livres pour faire connaître leur secte. Et c'était pas des livres qui venaient des vrais apôtres. Ils sont tous tardifs, ces évangiles apocryphes. Hein, ils viennent bien après les quatre. C'est pourquoi il y a les quatre évangiles? Parce qu'ils ont été écrits hein, avant la fin de l'an 70. Tous, ils ont été finis avant l'an 70. Tous les évangiles apocryphes, ils datent du 100, 120, 150, 200 après Jésus-Christ. Ils sont bien plus tardifs. Le titre de mère de Dieu qu'on trouve dans certains évangiles apocryphes n'existe pas dans les évangiles. Vous pouvez chercher partout, il n'y a pas mère de Dieu. C'est un titre qui a été donné au 5e siècle lors d'un concile. Ils ont des notions contraires au Nouveau Testament. Par exemple, dans l'évangile de Thomas, il est dit qu'une femme ne peut pas être sauvée parce qu'elle est femme. Elle doit devenir un homme pour être sauvée. Donc c'est écrit comme ça, noir sur blanc. L'évangile de Thomas. Est-ce que ça correspond à la Bible? Évidemment pas. Donc, on voit bien que ces textes ne sont pas chrétiens et c'est des choses qui ont été rajoutées. Ils sont pseudépigraphes, ça veut dire qu'ils ont été écrits par quelqu'un qui se fait passer pour un apôtre. Donc c'est l'évangile de Thomas, l'évangile de Pierre, mais Pierre n'a jamais écrit ça, ni Thomas. C'est un gnostique qui s'est fait passer pour eux 200 ans après. Est-ce que la Bible annonce le Coran ? Parce que les musulmans disent que le Coran est la suite de la Bible, hein, c'est la troisième religion monothéiste, et qu'elle était déjà annoncée dans la Bible. Le Coran était déjà annoncé dans la Bible. Et que Mahomet même était annoncé dans la Bible. Alors, déjà, que dit la Bible sur une éventuelle révélation ? Paul écrit aux Galates, « Quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. » Donc, les apôtres étaient clairs, si quelqu'un écrit quelque chose qui contredit ce que nous vous avons dit, il est maudit, il ne vient pas de nous, il ne vient pas de Dieu. Après, l'évangile de Barnabé. Donc, les musulmans parlent beaucoup de cet évangile. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Quand vous parlez avec eux, s'ils savent que vous êtes chrétien, ils vont dire « Et tu connais l'évangile de Barnabé ?» Parce que ça, c'est le vrai évangile. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'évangile de Barnabé ? Eh bien, il parle de Mohammed. Il dit que c'est le dernier messager de Dieu. Et dedans, il y a la shahada. La shahada, c'est la confession de foi du musulman. Donc, ça, c'est le vrai évangile qui a été enlevé par l'Église. Mais c'est celui-là qu'il faut croire. Oui, mais d'où il sort cet évangile de Barnabé ? Est-ce que c'est Barnabas de la Bible qui l'a écrit ? Parce que Barnabé, c'est Barnabas, hein, en grec. Qu'est-ce qu'on découvre ? On découvre qu'il existe seulement deux manuscrits de cet évangile dans le monde, l'un qui date du XVIe siècle de notre ère, hein, et l'autre du XVIIIe siècle. Déjà, ça ne fait pas beaucoup, et c'est très proche. Deuxièmement, s'il parle de Mohammed et de la Shahada, ça peut être qu'après l'islam. L'islam, hein, 7e siècle. Ça contredit clairement les évangiles, ça contredit même le Coran, cet évangile. C'est-à-dire, si vous étudiez le Coran et l'évangile de Barnabé, il y a des contradictions très nettes. Je ne donne pas les détails ici, mais je les ai étudiés. Et ça contredit même l'histoire, tout simplement. Un autre élément, est-ce que la Trinité et les quatre évangiles ont été fixés par l'empereur Constantin en concile de Nicée en 325 ? Tout ça, vous retrouvez ça sur Internet. Vous avez ici une gravure sur le concile de Nicée avec l'empereur romain Constantin qui s'est converti au christianisme. Il ne s'est jamais occupé du canon des Écritures, de ce qu'il y avait dans la Bible. Jamais. Ça n'a jamais été son centre d'intérêt. Il n'a jamais... Au concile de Nicée, on n'a pas parlé de ça. On a parlé de la personne de Jésus. Est-il Dieu ou pas ? C'est ça le concile de Nicée. Ils n'ont pas dit quel livre était dans la Bible. Donc cette idée que ça a été fixé au IVe siècle par l'empereur Constantin est une erreur absolue, c'est une erreur historique. Les quatre évangiles étaient écrits et reconnus, comme je vous ai dit, en 70 avant la fin du 1er siècle. Et donc, les évidences externes, c'est ce qu'on verra sur l'archéologie. Jésus a dit, hein, les pierres crieront et les pierres ont crié. Vous verrez ces choses-là la prochaine fois. Le prisme de Velde qui parle des rois avant le déluge et après le déluge. Le ziggourat qui était certainement le temple d'Abraham, puisque Ur, c'est là où était Abraham. La ville de Sodome est probablement retrouvée ici à Tel El Hammam. Un sceau qui représente Adam et Ève qui date de 2300. Les apirous qu'on retrouve en Égypte qui fabriquaient des briques. Les ruines de Jéricho, telles qu'elle est racontée dans la Bible, etc. Il y a aussi pour le Nouveau Testament. Tout ça, nous le verrons dans l'archéologie et la Bible. Ma conclusion, c'est que, évidemment, je crois que la Bible est digne de foi. Je crois que ce qu'elle contient est historique. Même si c'est spirituel aussi, c'est historique. C'est basé sur des faits qui sont vérifiables, archéologiquement, historiquement, et que surtout, elle a une unité extraordinaire, miraculeuse, qui prouve que c'est Dieu qui nous parle. Quand on ouvre la Bible, c'est Dieu qui nous parle. C'est pour ça que moi, qui étais athée, quand cet évangéliste a commencé à me citer la Bible, pour moi, c'était Dieu qui me parlait directement, ou Jésus. Après, chacun fait son choix dans sa vie, bien sûr. Nous sommes tous libres. Et Dieu, qui pourrait nous forcer tous ou tous nous écraser comme des mouches, il nous respecte. Il respecte notre liberté, notre libre arbitre. Il nous appelle, il nous explique, mais il nous laisse le choix. Alors, je ne voudrais pas tout terminer la réunion. Il va y avoir une collation juste après. Mais si vous avez des questions, précise, des doutes, si vous dites, mais là, je ne suis pas d'accord, ou vraiment, je suis à votre disposition. Je vous le dis, moi, j'étais athée, donc je sais ce que c'est de ne pas être d'accord avec la Bible. Ça ne me dérange pas du tout si quelqu'un n'est pas d'accord, ça ne me vexe pas, je ne me sens pas blessé dans ma foi. À Paris, j'en rencontre tout le temps, voilà, sur Internet aussi. Mais surtout, le but, c'est de répondre aux questions des chercheurs sincères. Si c'est juste pour contredire, ça, c'est pas très utile. Mais quand on cherche sincèrement la vérité, alors là, je serai votre ami le plus fidèle et je serai heureux de vous aider le plus possible. Je vous remercie de votre attention et je laisse Didier conclure. Merci.